Bonjour auditrices et auditeurs de Radio Galère. L'équipe d'animation des Échos du Grand Saint-Barthélemy est ravie de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère au 88.4 de la bande FM et sur leur canal du réseau numérique. L'émission a lieu en direct du local du comité dans le 14e arrondissement de Marseille et nous sommes en votre compagnie jusqu'à 15h30. Donc nous remercions d'ores et déjà nos invités, Gerchandre Dussaucy, Elsa Truze, Daniel Linon et Yvon Carl, pour leur participation à cette émission au cours de laquelle nous allons essayer de définir ce qu'est la médiation. Donc aujourd'hui, ils sont présents avec moi Saïd Boukounouch pour l'animation, Karima Berich, notre passeuse de mémoire, réalisation et conception assurée par Farid Adrar, sans oublier notre technicien Sidi Diallo. Donc, si vous souhaitez nous interagir avec nous, nous sommes joignables au 07 49 53 26 38 et toutes les informations relatives à nos actions et à l'actualité du comité Méméga sont disponibles sur la page Facebook du comité et sur le site du Vivre Ensemble qui est accessible au www.vivreensemble.org. Donc, on va se laisser avec une première pause musicale dédiée à toutes les personnes de l'ombre qui ont trimé malgré la Covid-19 et qui continuent à trimer nos damnés de la terre du quotidien. Avec le morceau Stromae, santé.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Les Échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Méga. Alors, avant la pause, nous étions avec nos invités, Gerchandre, Elsa, Daniel et Yvon. Et nous sommes toujours avec eux. Nous allons ensemble essayer de définir ce qu'est la médiation. Mais d'abord, on va les laisser se présenter. Ce qui est leur rôle, leur mission, leur territoire d'intervention et compagnie.
Bonjour à tous. Ça fonctionne ?
Oui.
Super. Donc je présente la Régie Service 13 rapidement. Donc la Régie Service 13, nous sommes une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui a été créée par... elle a vu le jour en fait sur la Cité des Flamands, donc qui est juste à côté d'ici. Elle est née de la volonté d'habitants de la Cité des Flamands, mais aussi avec le concours des bailleurs, du bailleur social de l'époque, qui, des habitants qui n'étaient pas satisfaits en fait, du nettoyage qui ne se faisait pas à leur goût en fait, dans les parties communes et aux abords. Et donc c'est comme ça que la Régie Service 13 a été créée. Ils se sont constitués en association pour mener une activité donc de nettoyage, de propreté aux abords de leur bâtiment et sur la Cité des Flamands. Voilà. Donc aujourd'hui, la Régie Service 13 elle s'est développée. On n'a pas que l'activité de nettoyage. C'est une association d'insertion par l'activité économique. Nous avons plusieurs chantiers d'insertion dans des domaines variés. Donc toujours le nettoyage et la propreté, mais aussi le ramassage d'encombrants, les espaces verts, les petits travaux de réparation sur les parties extérieures, mais aussi les parties communes chez les bailleurs sociaux. Et on a le volet, bien entendu, médiation sociale. Voilà. Donc aujourd'hui, l'association, c'est presque 250 salariés qui sont à la fois fléchés sur les chantiers d'insertion, à la fois sur la médiation, et puis bien entendu, notre équipe de permanents.
Daniel.
Bonjour à tout le monde. Donc moi, c'est Daniel Linon, je suis directeur de l'association Médiance 13. Donc en quelques mots, Médiance 13, c'est sur le plan historique 97, c'est un premier point d'accueil de proximité sur la Savine dans le 15e arrondissement. Un partenariat déjà, on a un fonctionnement assez hybride au niveau associatif puisqu'on a du financement public et du financement privé. Et le privé, en l'occurrence EDF, était présent à l'origine de la création de Médiance 13, donc en 97, donc ça a démarré avec la Savine. Alors c'est de la gestion d'accueil de proximité sur des problématiques d'accès au droit, hein, donc au niveau de la médiation sociale. Et aujourd'hui, Médiance 13, c'est une présence dans plusieurs arrondissements de Marseille, c'est une présence sur Aubagne, La Ciotat et Marignane, donc plusieurs villes dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est presque 60 salariés aujourd'hui. C'est donc de manière spécifique la problématique d'accès au droit, la problématique énergétique et hydrique, hein, c'est-à-dire qu'avec les partenaires tels que EDF, la Société des Eaux, GRDF et d'autres, on travaille sur ces questions-là qui sont, vous le savez, en ce moment même très importantes, hein, sur les questions d'augmentation de gaz, d'électricité, donc avec des personnes qui n'arrivent pas à payer leur facture. Donc on intervient dans ce cadre-là et beaucoup d'autres actions. La question de la fracture numérique, elle est également très importante. Elle est portée avec plusieurs partenaires, avec Médiance 13 et d'autres actions que je développerai peut-être un petit peu plus tard.
Bonjour, donc je suis Yvon Carlet, chef de service dans une association de médiation au sein du groupe ADAP 13. Historiquement, c'est une association de prévention spécialisée depuis un peu plus de 50 ans. L'association de médiation où je suis chef de service a été créée en 2015 sur la médiation sociale urbaine, donc médiation dans les quartiers, notamment du 3e au 16e arrondissement. Depuis quelques années, nous nous sommes diversifiés sur d'autres champs de médiation, que ce soit dans la médiation collège, médiation dans les écoles primaires, médiation dans les pôles emploi, dans les lycées et dans les TER également. Nous sommes présents sur l'ensemble du département. L'association de médiation comprend 200 personnes à peu près sur le département. Et le groupe associatif ADAP 13 comprend un peu plus de 600 personnes actuellement.
Bonjour, je suis Elsa Truss, je coordonne deux plateformes de services publics et France Service pour l'association Léo Lagrange Méditerranée. Donc l'association Léo Lagrange Méditerranée, c'est une association qui est rattachée à la Fédération nationale Léo Lagrange. Elle est connue généralement pour mettre en place des actions plutôt de gestion de centres sociaux ou de centres de vacances ou d'accueil de loisirs, ou de la formation aussi également, notamment au métier de l'animation. Dans le champ sur lequel je travaille, c'est un petit peu atypique. Nous, nous travaillons dans l'accès aux droits sociaux et dans l'accueil du public pour l'aide aux démarches administratives essentiellement. Donc on est là plutôt dans un champ de médiation entre les habitants et les services publics. Pour aujourd'hui et en lien avec ce territoire, je suis là plutôt au titre de la coordination de la plateforme de services publics du Canet, qui a ouvert ses portes en 2000 au sein du bureau de poste du Canet, qui a vécu un petit cheminement d'errance à partir de 2011, avec des permanences, notamment au centre social Saint-Gabriel, et puis depuis 2018, une implantation à la cité SNCF. Voilà.
Très bien. Et au niveau de vos financements, Daniel nous a parlé de financement privé. Et majoritairement, vous avez des financements de la politique de la ville. Quel autre type de financement vous bénéficiez ?
Alors, pour ce qui est des plateformes de services publics, nous sommes financés et au départ exclusivement dans le cadre de la politique de la ville, principalement par l'État, la métropole et le département. Fut un temps par la région et puis finalement plus du tout, comme tout le monde effectivement, avec une mauvaise surprise en 2017. Et depuis plus récemment, dans le cadre de labels qui ont été mis en place par l'État, donc aujourd'hui le label France Service, avant les maisons de services au public, par des financements d'État spécifiques de droit commun.
De notre côté, nous avons de multiples financements en fonction des missions, que ce soit un financement directement par les pôles emploi, par la mairie de Marseille, la préfecture, les bailleurs sociaux qui sont dans la médiation sociale urbaine, la région pour le TER, et je crois que j'en oublie pas, il me semble, voilà, préfecture majoritairement quand même, et les bailleurs sociaux.
C'est pareil pour nous, hein, dans le cadre du dispositif de médiation dans les quartiers, parce qu'on intervient donc, sur le patrimoine des bailleurs sociaux, donc on a du financement bailleur, bien entendu, du financement État aussi pour la médiation dans les quartiers, la médiation numérique, le financement de la ville de Marseille pour l'activité de médiation aux abords des écoles primaires et sur le littoral l'été, et le département aussi qui nous finance dans le cadre de la médiation aux abords des collèges.
Avec toutes mes excuses, j'ai oublié le bailleur ICF, qui nous apporte aussi un financement au titre de la plateforme du Canet.
Donc, Karima Berich, passeuse de mémoire, je dois faire le lien, effectivement, avec l'ensemble des acteurs ici présents et le territoire du Grand Saint-Barthélemy. Donc, je vais démarrer par le début. Donc, puisque nous avons la chance ici d'avoir un représentant de Médiance 13 et une représentante de la régie Service 13, au commencement, il y avait quand même une personne qui s'appelle Patrick Nedelec, qui a été le directeur de la régie Service 13, 14, c'est comme ça qu'elle se nommait au départ, installée au cœur des Flamands. Donc il faut recontextualiser un peu cette histoire de la régie. En 81, la gauche arrive au pouvoir et décide effectivement, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait Banlieue 89, de rénover un certain nombre de grands ensembles qui avaient mal vieilli, et les Flamands en font partie, et dans ces rénovations sont adoubés des régies-services. Et la première régie-service de Marseille, sera installée aux Flamands. Donc Patrick Nedelec en sera le premier directeur, donc de 89 à 93, et très rapidement, il va s'intéresser à une autre forme de dispositif, qui est la médiation, et le directeur actuel de Médiance 13 en a parlé. La singularité de Médiance 13, c'est qu'à la fois, elle allie les pouvoirs publics et le privé, ce qui, à l'époque, n'existait quasiment pas ou pas du tout, en tout cas sur le territoire marseillais. Et ça, c'est une innovation, marseillaise. Et le premier PSP, comme l'a dit notre ami, a été créé donc, à la Savine. Il y a eu des tentatives de créer un point PSP, c'est les points de service au public, sur ce territoire du Grand Saint-Barthélemy, malheureusement, ça n'a jamais pu être le cas. Mais je reviendrai parce qu'il faut que je déroule d'une façon chronologique, plus ou moins, l'histoire des acteurs de médiation, de structures de médiation sur ce territoire. Une autre structure, et pas n'importe laquelle, c'est Sheba, parce que les médiateurs parents relais, c'est une forme de médiation, évidemment. Et quelle médiation ? C'est les années 94-1995. Sheba réfléchit à un projet de médiation sur ce territoire, à la demande, dans un premier temps, des directeurs d'écoles primaires et très rapidement, les collèges qui s'intéressent à cette médiation entre parents et les enseignants et plus largement tous ceux qui interviennent au sein des collèges, au regard de la difficulté d'être en contact avec des parents d'élèves. Donc ça, c'est extrêmement important. Cette médiation continue, moindre que les années auparavant, mais c'est important de le dire. La petite histoire, parce que la petite histoire dans la grande histoire, ce n'est pas insignifiant. À la suite de cette expérience des parents relais, très remarquée à l'époque par la DIV, la Direction interministérielle à la ville, va réfléchir à une forme de pérennisation de ces emplois, avec la création du dispositif adulte relais. C'est venu du Grand Saint-Barthélemy, cette idée. Donc c'est important de le souligner. Ça, donc, c'est chez BA, 94-95, la mise en place de ce dispositif parents relais en directeur des écoles primaires et des collèges du Grand Saint-Barthélemy, mais bien au-delà. Dès que quelque chose marche, évidemment, on peut le dupliquer dans d'autres territoires, pour peu qu'il y ait une volonté politique qui se traduit par des financements avec des financements. La régie service, bien sûr, j'en ai parlé, et c'est un acteur important sur le territoire. Il a été notamment sur la médiation conflit de voisinage, dans un partenariat qui est lié avec la Logirem, sur le patrimoine de la Busserine, sur ce territoire du Grand Saint-Barthélemy. Vous n'y êtes plus, malheureusement, mais bon, ça aussi, ça dépend des volontés de part et d'autre. Je vais continuer avec nos amis de la DAP et la MCS, mais la DAP de mémoire, en collaboration avec Médians 13, dès le début des années 2000, quand la halte gare Picon-Busserine a été créée, il y a eu une médiation, vous avez appelé d'ailleurs humanisation des haltes. Il faut le rappeler, c'est quand même aussi une forme de médiation entre les populations et les usagers ou les publics du TER pour qu'effectivement tout se déroule au mieux. Et puis, effectivement, notre collègue de la DAP à MCS a parlé des médiateurs sociaux. De mémoire, il me semble que c'est 2013-2014, au moment de Marseille Capitale Culturelle et de ce PRU qui se construisait sur ce territoire. Et il y a eu des financements de l'État, notamment avec la création en nombre d'adultes relais médiateurs socio-urbains. Et nous avons heureusement encore la chance de pouvoir avoir ces médiateurs sur notre territoire. Je terminerai avec nos collègues de la plateforme de services publics Léo Lagrange, qui a des permanences dans deux équipements structurants du territoire du Grand Saint-Barthélemy, en l'occurrence le Centre social Agora et le Centre social des Flamands, sachant qu'auparavant, c'était Médians 13 qui assurait ses permanences de médiation de 2012 à 2020. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ces différents acteurs de la médiation sur ce territoire depuis le début jusqu'à ce jour.
Je vais poser une question qui peut être dérangeante, c'est que si les services publics marchaient vraiment bien, est-ce qu'il y aurait besoin de médiation ? Qui veut bien répondre ?
Je peux y aller. Je peux, bon. Évidemment, on peut avoir aussi une vision critique. Rien ne nous empêche aussi de critiquer l'objet de nos structures. Je veux dire, il ne faut surtout pas ne pas le faire. Nous sommes quand même des gens qui réfléchissons sur le travail que nous menons, sur son utilité et son sens. Évidemment, la médiation aujourd'hui s'est extrêmement développée au fil des décennies. On trouve de la médiation de partout, comme un moyen, un outil possible de régler parfois des formes de dysfonctionnement qu'on peut voir apparaître au sein d'institutions. Comment rapprocher l'usager des services publics, comment effectivement, dans certains territoires qualifiés de sensibles par la politique de la ville, comment on met aujourd'hui des acteurs de médiation pour faciliter un certain nombre d'éléments. Après, il faut s'intéresser effectivement où sont les acteurs de médiation. Est-ce que c'est lié à la désaffection des services publics sur ces territoires ? Je lance...
Si je peux me permettre de rajouter quelque chose en même temps, alors aujourd'hui c'est vrai que nous sommes des acteurs et des opérateurs en tout cas structurés, professionnalisés sur la question de la médiation sociale, mais la médiation d'une certaine manière a toujours existé. Je suis prêt d'une affiche avec Françoise Héga, pour ne parler que d'elle, mais on pourrait parler d'autres personnes et d'autres figures emblématiques dans ce quartier du Grand Saint-Barthélemy, mais dans tous les quartiers. Mais on faisait quoi à ce moment-là? Alors c'était des bénévoles, mais il y avait un travail en tout cas de tissage de liens, de mise en lien, de relations avec les habitants, de essayer, je pense à Monsieur Thiers par exemple également, ce marchand de biens. C'était aussi d'une certaine manière une forme de médiation qui ne disait pas son nom, mais enfin, donc il y avait des choses qui existaient donc déjà. Aujourd'hui, il y a une professionnalisation en tout cas sur les questions de médiation. Et Saïd, ta question est bien posée parce que oui, on peut constater quand même pour certains opérateurs de la médiation sociale sur la gestion par exemple de sites, on peut constater qu'il y a quelque chose qui se passe dans le fait qu'il y a du service public de moins en moins sur des territoires, de moins en moins sur des territoires problématiques et de plus en plus de sollicitations d'opérateurs de la médiation sociale pour faire ce que l'État faisait avant au travers de ses administrations. J'en veux pour preuve la question des France Services. Clairement, la dotation financière d'une France Service, c'est ridicule par rapport à ce que l'on demande et par rapport aux exigences de l'État, c'est ridicule. Donc oui, il y a quelque chose pour lequel moi je fais très très attention et je présente les sites dont j'ai la gestion, pas en tant que maison France Service, mais je les présente en tant que site accueil de proximité de Médians 13 qui bénéficient d'un label France Service. Ça change un petit peu les choses parce que l'État souhaiterait qu'on présente uniquement des maisons France Service, mais moi, la structure sur Marignane, dans le 3e, dans le 14e, dans le 15e et sur la Ciotat, ça existait avant le label. Et je suppose, Elsa, que pour toi, c'est la même chose.
Oui, moi je partage complètement le point de vue de Daniel, c'est-à-dire que la médiation existe bien avant qu'elle soit professionnelle, elle existe aujourd'hui. On a dans nos accueils aussi des parents qui sont accompagnés de leurs jeunes ados, qui aident aux démarches, et c'est aussi une forme de médiation. Enfin, on est tous à l'interface à des moments pour aider nos proches, nos voisins, professionnellement ou pas. Mais pour en revenir à la question des services publics, alors je crois, sauf erreur de ma part, en 91, il y a un rapport parlementaire qui est produit par un monsieur qui s'appelle Picard, je ne me rappelle pas son prénom, parle de l'amélioration des services publics dans les quartiers. Et en fait, qui propose, devant le constat du départ des services publics des quartiers, la mise en place de structures qui soient adaptées aux problématiques quotidiennes des habitants des quartiers. L'idée, ce n'est pas du tout de remplacer les services publics, c'est bien d'aider les habitants à accéder, comme tout un chacun, à un service. Et donc c'est là que sont créées les maisons de services publics, et non pas au public, de services publics, les plateformes de services publics et autres structures polyvalentes de ce type. Et en fait, nous, on a l'habitude de le résumer de cette manière. C'est-à-dire que quand on a accès à beaucoup de droits sociaux, on a beaucoup de démarches administratives à accomplir. Et donc, on a besoin d'accéder régulièrement aux services, ou en tout cas, si on a des difficultés à faire les démarches, d'être aidé dans ces démarches-là. Donc en fait, le service public, il est conçu pour répondre aux besoins lambda de tout un chacun. Quand on a des demandes récurrentes et beaucoup de démarches à faire, ben, le service public il est souvent mal adapté. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, c'était il y a presque 20 ans maintenant, et les services commençaient à être minutés dans l'accueil du public. Et donc quand on a une situation très complexe à expliquer, il nous faut du temps. Et nous, on était précisément conçu pour ça. Et donc pour ces situations complexes et adapté pour ça. Donc c'est en complémentarité et pas en remplacement qu'on existe.
Moi, je nuancerai quand même ton propos, parce que ce qu'on a observé depuis 30-40 ans, c'est quand même la disparition au fur et à mesure d'un certain nombre de services publics dans les quartiers populaires et qui ont été remplacés par des structures associatives qui font de la médiation ou autre. Et ça, c'est dommageable. Que ce soit quelque chose qui soit en plus pour apporter effectivement un service particulier au regard de problématiques spécifiques de ces territoires, d'accord, mais il faut être vigilant. C'est pour ça que je dis, ça ne doit pas empêcher la critique et le questionnement sur ce que nous faisons en tant qu'acteur de médiation, de savoir effectivement si on n'est pas en train de se substituer quelque part à ce qui est le droit commun. Et tous les habitants lambda devraient en bénéficier du droit commun. Si le droit commun existe sur ces territoires et en plus on a ce type d'acteur qui apporte effectivement, comme tu dis, cette particularité parce qu'elle est nécessaire, oui, mais il me semble, au regard de certains territoires, que c'est l'inverse que nous observons. Et ça, c'est, pour moi, c'est quand même assez alarmant. Il faut être vigilant, voilà, c'est ce que je voulais ajouter.
Moi, je partage ton point de vue et ça rejoint aussi ce que disait Daniel par rapport au label France Service. En fait, je crois qu'on est aujourd'hui, pour nos structures, à une sorte de carrefour. On a été conçu dans cet état d'esprit de complémentarité. Aujourd'hui, les labels, et c'est pour ça que c'est très important, effectivement, de garder le nom de nos structures, aussi difficile qu'il soit à retenir, plateforme de services publics, personne ne retient ce nom. Ça n'a jamais parlé à personne. Aujourd'hui, on le garde et on y est attaché justement pour ça. Parce que le label, ça peut être aussi qu'une vitrine et une utilisation et un remplacement comme ça, en douce, j'ai envie de dire, et pour dire ensuite aux habitants, regardez, vous avez des services publics. Nous, on n'est pas le service public. Voilà.
Je vous remercie pour cette intervention et on va reprendre le débat après une pause musicale. Nous allons écouter Louane et Grand Corps Malade derrière le brouillard.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois. Trouver le courage.
Y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin, mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Ah.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson? J'ai connu une sorte de brouillard, et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire, et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Méga. Nous sommes toujours avec nos invités, Gerson Dussaucy, Elsa Truss, Daniel Linon et Yvon Carlet. Donc, on espère que vous allez dissiper le brouillard, n'est-ce pas, autour de la médiation. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de médiation, mais quelle est la définition de la médiation? Qu'est-ce que c'est que la médiation? Apparemment, Karima est volontaire pour répondre.
Non, j'en ai une, hein, après les autres peuvent la compléter, mais je vais laisser quand même à notre ami... Daniel, de sa voix suave, de dire cette définition de France Médiation, cher ami. Tenez.
La médiation sociale est définie comme un processus de création et de réparation du lien social et du règlement des conflits de la vie quotidienne dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l'organisation d'échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose.
On n'a pas du tout dissipé le brouillard. Là.
Juste pour dire que cette définition, elle est quand même sérieuse et légitime, puisqu'elle a été définie lors d'un séminaire organisé par le ministère de la Ville et la DIV, la Direction donc interministérielle à la Ville. Un groupe d'experts européens a retenu la définition de la médiation suivante, telle qu'elle nous a été énoncée par Daniel Linon.
C'est-à-dire qu'en gros, il fallait, à un moment donné, essayer de savoir de quoi on parlait quand on parlait de la médiation et s'entendre au niveau d'un cadre un petit peu réglementaire, même s'il y a après des spécificités liées à nos fonctions. Hein, parce que là, ici, il y a plusieurs opérateurs et on a des champs d'intervention un petit peu différents. Mais il y a un cadre, en tout cas, qui a été défini et nous, en tout cas, qui est utilisé. Dans le cadre du réseau France Médiation, le réseau France Médiation est un réseau qui réunit à peu près 70 ou 80 opérateurs en France, donc avec une direction sur Paris. Et à partir de là, l'idée, c'est, puisque même si on parlait de cette dimension un petit peu historique de la médiation qui ne disait pas son nom mais qui était aussi en quelque sorte de la médiation, aujourd'hui on assiste bien en tout cas à une structuration de cette profession et l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin et de l'inscrire réellement dans le droit commun. Ça permettra justement de pouvoir disposer, je l'espère en tout cas, de plus de moyens et de plus de reconnaissance et légitimité auprès des pouvoirs publics. Ça nous évitera de manière très très opérationnelle aussi de moins avoir recours à des contrats aidés et d'avoir des contrats de droit commun. Hein, ça change un petit peu les choses.
Je suppose que les besoins de médiation ne sont pas les mêmes sur tous les territoires. Alors qui décide où c'est qu'on met des moyens ? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que ce sont les associations qui proposent à l'État ou aux autres collectivités publiques ?
Moi, je dirais qu'il y a d'abord l'État qui est le principal pour nous, financeurs, avec les bailleurs sociaux, qui décide de territoires prioritaires. Après, on peut toujours faire des propositions pour dire que sur tel territoire, ça serait bien de pouvoir intervenir et de développer de la médiation, que ce soit de la médiation sociale urbaine ou autre, que ce soit auprès d'un collège ou d'une école primaire. Maintenant, la majorité des territoires sont définis quand même par les financeurs à l'heure actuelle. Et pour rebondir sur ce que tu disais, par rapport à la professionnalisation du métier, il y a quand même la question du contrat adulte relais qui reste pour moi un contrat précaire, qui reste un contrat qui ne permet pas de s'inscrire dans la durée. Et ayant pour l'instant, jusqu'à maintenant, des financements annuels, ça ne nous permet pas de vraiment de faire des perspectives sur du long terme, sur l'ensemble des missions que nous avons. Et pour vraiment professionnaliser ce métier, il faut pouvoir s'inscrire dans la durée avec des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée de mission, mais voilà, un autre type de contrat serait intéressant.
Donc justement, vous parlez de vos champs d'intervention. Quels sont-ils autour de la table ? Gersandre, oui.
Oui, alors nous, on intervient donc sur plusieurs dispositifs de médiation. On a les dispositifs de médiation aux abords des collèges. Donc c'est un dispositif qui est financé par le département. On est sur plusieurs collèges. On a des équipes donc, qui interviennent vraiment aux abords. On intervient donc aux abords des écoles primaires et dans les quartiers. Est-ce que c'est ça ta question ?
Je voulais savoir, oui, exactement, voilà, ce que vous faisiez.
Voilà. On a de la médiation numérique aussi, puisqu'on est en prévision de la dématérialisation pour 2022, avec un médiateur numérique pour l'instant et un conseiller numérique qu'on attend incessamment sous peu, pour former, sensibiliser les habitants sur justement l'outil informatique, que ça soit l'ordinateur, que ça soit le téléphone portable ou alors les tablettes. Voilà. C'est un médiateur qui est basé sur Frévalon aujourd'hui. On a une forte, on a une demande quand même qui est importante, mais surtout fléchée sur les personnes, sur les seniors.
D'accord. Sur Frévalon et sur le Saint-Barthélemy, est-ce qu'il y a ce type d'action au sein ?
Alors pour nous, de notre côté, on a notre médiateur qui est basé sur Frévalon. À l'origine, l'offre est fléchée pour les habitants de Frévalon, ce qui est un gros territoire, hein, 1345 logements, presque 6000 habitants. Donc il y a de quoi faire sur ce territoire-là. Aujourd'hui, le bouche à oreille fait que Foued, notre médiateur numérique, reçoit des habitants hors Frévalon. Mais en tout cas, c'est un challenge important et il va falloir développer sur ce dispositif-là.
Je peux me permettre d'ajouter une précision pour parce que tout à l'heure, on parlait de désengagement de l'État. La question des conseillers numériques, par exemple, hein, donc c'est un déploiement qui se fait à l'échelle nationale. Nous, on en recrute deux à Médians 13. Et là aussi, vigilance plus, parce que l'aide de l'État est intéressante. Donc nous, on embauche là sur du droit commun, mais il y a un travail de formation à faire énorme. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, vous pouvez être conseiller numérique sans avoir aucune qualification. Aucune qualification, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait de l'informatique, vous pouvez demain être conseiller numérique, c'est-à-dire que vous postulez dans une plateforme, vous pouvez être conseiller numérique, ce qui sous-entend qu'il va y avoir tout un axe de formation qui va être important, et quelquefois vous allez donc embaucher un conseiller numérique, et vous allez devoir le laisser partir en formation pendant un certain temps. Donc ça veut dire que là aussi, Vigilance, moi j'en ai recruté deux. Vigilance parce que on fait le boulot de l'État, hein, je veux dire clairement, hein, à ce moment-là. Hein, donc voilà, c'est encore une fois un exemple de vigilance à avoir par rapport à les dispositifs de l'État qui nous conviennent, hein, parce que l'un dans l'autre on s'y retrouve, mais on peut avoir des difficultés parce qu'on embauche quelqu'un pour être opérationnel sur un ou plusieurs sites. Nous, en l'occurrence, c'est sur plusieurs sites à Marseille et il se trouve qu'il va falloir composer aussi avec, pour un des deux, avec un programme de formation très important.
D'accord. Donc, on a autour de la table plusieurs opérateurs de la médiation. Est-ce que vous travaillez ensemble et si c'est le cas, comment ?
On travaille, je vais d'abord parler du travail de collaboration qu'on a avec Médiance, puisque j'anime un réseau qui s'appelle le réseau Parade, des points d'accueil en réseau pour l'accès aux droits sociaux, encore un nom un peu compliqué, qui réunit 6 associations autour de points d'accueil pour les droits sociaux. Donc Médiance nous a rejoint en 2018, le réseau existe depuis 2009 si je ne me trompe pas, et donc on a des réunions régulières pour parler du dispositif, des contacts qu'on a à avoir avec les services publics, mais aussi pour permettre à nos agents d'accueil, nos médiateurs de travailler ensemble, de se connaître, de se former auprès des services publics. Voilà, c'est un vrai travail de collaboration et de manière très opérationnelle, qui part du terrain, qui part des besoins de nos accueils, et donc qui vise à améliorer aussi les réponses qu'on apporte aux habitants. Plus largement, on travaille aussi avec les autres structures, hein, que ça soit les collègues des centres sociaux, mais que ça soit les collègues de la DAP, on travaille bien sûr ensemble. Mais de manière beaucoup moins rapprochée que ce que nous pouvons faire avec Médiance.
Je vais compléter la question de ma collègue. Sur le Grand Saint-Barthélemy, il y a quand même un certain nombre d'opérateurs présents. Et est-ce que vous organisez des rencontres entre vous ? Est-ce que vous avez un diagnostic partagé au regard des problématiques de ce territoire ? Et comment vous essayez, dans la mesure du possible, d'y répondre, soit individuellement ou collectivement. Mais c'est important, ce que tu disais, à l'échelle un peu plus large, je n'ai pas retenu l'acronyme, hein, désolé, il est un peu barbare. Mais effectivement, sur ce territoire, je sais qu'on a l'habitude d'avoir un peu cette démarche de travail, de dire sur un objet qui est plus ou moins, ou une thématique plutôt, qui est identique, sur ce territoire du Grand Saint-Barthélemy, on se rencontre de façon régulière, ce n'est pas forcément une fois par mois, mais qu'on ait un diagnostic partagé sur nos démarches respectives et de savoir comment, effectivement, on peut contribuer à améliorer la situation des habitants du Grand Saint-Barthélemy. À ce jour, ce type de démarche n'existe pas. Ou alors est à l'étude, ou ça a déjà démarré.
Alors moi, je pense que elle est plutôt à construire aujourd'hui sur le Grand Saint-Barthélemy. Parce que en fait, quand on se voit très régulièrement, on se voit au moins une fois par mois. On échange sur aussi avec nos collègues, donc de Luvonne, de Bougainville, des Hauts-de-Mazargues, de la Bricard, de la Castellane, bref. Et alors, une chose est sûre, c'est que les constats qu'on fait sont partagés. Nos statistiques et les démarches pour lesquelles les habitants nous sollicitent principalement sont toujours les mêmes, quels que soient les territoires. C'est tout l'intérêt qu'on a à travailler ensemble. Par contre, ce travail vraiment rapproché, il n'a jamais été mis en place spécifiquement sur le Grand Saint-Barthélemy. Avec la plateforme du Canet, on a organisé des réunions d'information sur certaines démarches ouvertes aux structures du 14e. Donc c'est plutôt 14e là, oui. Alors le Covid a pas mal ralenti les choses, c'est un peu dilué. Le temps est souvent pris et on est souvent mobilisé éventuellement par des réunions organisées par la politique de la ville. Mais c'est pas là où on a le travail le plus opérationnel, le plus intéressant en fait. On s'identifie, on entend un peu de loin ce que les collègues font, mais pour travailler vraiment ce que je crois comprendre de ta question sur des problématiques même du territoire, non, et moi j'aimerais bien le faire, en tout cas je serais très partante.
sur la partie cadre de vie, besoins et attentes exprimées des habitants. Sur le Grand Saint-Barthélemy, il y a plusieurs instances qui existent, notamment le groupe de veille, qui est animé par Anne-Marie Tagawa, qui se rencontre. C'est un groupe qui est constitué en fait de, d'une grande partie des acteurs de proximité ici. Sur lequel nous partageons en fait des diagnostics de territoire, sur lequel on peut faire communiquer, échanger sur les besoins, les attentes exprimées des habitants. Donc c'est des instances qui sont intéressantes parce que on pose des diagnostics et puis on essaie de manière partagée d'apporter des idées et des solutions. Il y a aussi un autre groupe qui existe au-delà du groupe de veille, c'est les instances cadres de vie, là qui sont scindées, qui sont pas, c'est pas une seule instance sur tout le Grand Saint-Barthélemy, puisque c'est un gros territoire, et là qui est animé, qui avait été lancé par la déléguée du préfet, Madame Karine Benet. Fabienne, pardon. Excusez-moi, j'ai une autre Karine, Karine Badet, voilà, qui est déléguée du préfet sur un autre territoire. Non, donc Fabienne Benet, pardon, qui est déléguée du préfet ici et sur lequel on participe à aux instances, donc cadre de vie. Donc là, on va vraiment échanger sur cette thématique-là.
Je voudrais revenir un peu sur la question du statut. Est-ce qu'on considère que ces besoins vont exister à long terme? Et dans ce cas-là, il faut que ça devienne des vraies professions, avec une vraie formation, avec des prérequis pour faire ces métiers. Ou est-ce qu'on considère que c'est quelque chose qui va durer très peu de temps, le temps qu'on trouve des solutions pour que les relations entre usagers et services publics s'améliorent et que donc on pourra se passer de vous? Donc là, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit on pense que c'est du précaire, soit on pense que c'est du sérieux. Si c'est du sérieux, ça veut dire des vrais métiers. Ça veut dire que quand on est en troisième, on dit « qu'est-ce que tu veux faire ?»« Ben, je voudrais faire médiateur. »
Alors moi, j'aimerais bien répondre que nous allons cesser notre travail parce que tout va s'arranger et que tout ira bien. Après, bien au contraire, j'ai l'impression que les problématiques sont de plus en plus prégnantes, que la fracture entre l'accès, enfin entre la population des quartiers dits difficiles et l'accès aux droits communs est de plus en plus compliqué, notamment avec la fracture numérique qui agrandit sans cesse l'accès à ces droits communs, justement. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de nous pendant très longtemps. Et effectivement, il y a ce rapport entre la professionnalisation du métier qui voudrait, puisqu'on est engagé sur du long terme, avoir des moyens sur du long terme. Et pour l'instant, on reste avec des moyens à court terme sur des problématiques qui dépassent largement le court et moyen terme. Donc il faudrait vraiment se poser en tout cas les pouvoirs publics se posent la question de comment on pérennise ces actions. Alors il y a déjà le métier de médiateur qui a été encadré. Ça a été une réflexion nationale, notamment avec France Médiation et d'autres acteurs, avec le MSADS notamment. Alors c'est un premier pas pour vraiment professionnaliser, et dans le cadre du contrat adulte relais, justement, il y a une obligation de pouvoir former les gens et de ce qu'on parle de la montée en compétences des médiateurs. C'est un premier pas. Maintenant, il faudrait aller un peu plus loin sur justement les moyens pour pérenniser les moyens.
Mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire le collègue, c'est vraiment tout l'enjeu de la situation actuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, avec les questions de professionnalisation, de normes AFNOR, etc., l'enjeu, il est là. Hein. C'est aujourd'hui que les choses se passent. Et oui, je pense que de toute manière, sur les métiers du social, il y aura toujours besoin, parce que c'est aussi en lien avec la manière dont la société fonctionne aujourd'hui, et on ne peut pas dire par là que ça fonctionne très bien. Donc il y aura toujours ce besoin, et raison de plus justement pour être bien en phase avec ce qui se passe en termes de structuration de la médiation sociale, de la professionnalisation des acteurs de la médiation sociale et du travail aussi de lobbying une politique à faire, hein, ça va de pair, pour faire de façon à ce que, encore une fois, je le disais aussi précédemment, que la médiation sociale soit reconnue et légitimée, en tout cas.
Une petite réflexion, j'ai été déléguée du médiateur de la République sur le 15-16e de 1999 à 1992. Et effectivement, les personnes que nous recevions, de 1999 à 2002, les personnes que nous recevions, c'est effectivement ces personnes que tu as décrites, Elsa, c'est ces personnes qui, la moitié du temps, ont des rendez-vous avec des organismes sociaux. Et c'est impressionnant, ils peuvent avoir un agenda, il est quasiment rempli, entre la caisse d'assurance maladie, entre Pôle emploi, entre la CAF et autres. Donc on voit qu'effectivement, ces services publics sont extrêmement sollicités par les habitants. La médiation, aujourd'hui, elle est là, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Il y a peut-être une réflexion à porter avec, tu disais, de faire du lobbying politique. Je pense que La médiation interroge les services publics tels qu'ils existent aujourd'hui. C'est-à-dire parfois de ne pas être en phase avec une partie de nos concitoyens. C'est-à-dire soit les services publics évoluent et organisent différemment ces services, et en professionnalisation évidemment, les médiateurs, en les qualifiant, etc. Ça veut dire qu'on sort de ce champ un peu précaire associatif. Et on rentrerait dans quelque chose. Alors, il y a plusieurs pistes. Hein. Soit on reste dans l'associatif avec du financement de droit commun, un peu comme l'ADAP, le financement du département dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, qui est quand même du droit commun. Ça sécurise les emplois et les missions de l'ADAP. Soit c'est des collectivités qui portent cela. Mais il y a plusieurs réflexions à avoir, de se dire aujourd'hui, oui, la médiation répond à des problématiques d'habitants de territoires, que ce soit les territoires urbains ou ruraux, hein, parce qu'on parle, là on est dans une ville, dans des quartiers urbains, mais cette problématique elle se pose aussi pour les ruraux, et de dire comment les services publics se transforment en étant moins quelque chose d'uniforme et de figé, mais de réfléchir autrement ces services au public. Mais c'est une vraie question, parce que la professionnalisation, ça veut dire, et la pérennisation, ça veut dire rentrer dans le droit commun. Et comment on y entre, alors ?
Avant la question de l'entrée dans le droit commun, la question, effectivement, est exactement celle-ci. C'est aussi une réflexion que je mène, ça fait maintenant assez longtemps que je travaille sur cette thématique. Et parfois, je trouve que mon travail est moins sympa maintenant qu'avant. Alors, bon, c'est peut-être l'âge. Je crois aussi que c'est aussi la modification et l'évolution des services publics et du service rendu au public. C'est-à-dire que quand on commence à travailler sur les plateformes de services publics, on travaille au service des habitants, à partir de leurs besoins, et on construit le projet. Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'on a fait, et c'était vraiment passionnant de le faire. Les labels et ce qui est proposé aujourd'hui tendraient plutôt à donner à penser que l'État souhaite que ce service-là soit externalisé par rapport aux services publics. Services publics qui sont donc en révolution accélérée avec le Covid, mais c'était bien lancé avant. Sachant que, petite parenthèse, moi, quand je discutais avec les services publics il y a encore une dizaine d'années, on savait qu'ils réorganisaient leurs accueils sans cesse. On l'a tous vécu. Hein. Au départ, les services venaient faire des permanences dans nos structures. Puis petit à petit, les agents ont été rappelés sur leur propre point d'accueil parce qu'il n'y avait plus assez de personnel pour accueillir le public dans ces accueils-là. Et ce qui nous avait été expliqué à ce moment-là, à plusieurs étapes de cette évolution, c'était que ça permettait de dégager du temps pour justement l'accueil des usagers, des habitants qui étaient le plus en galère. Et qu'au contraire, il y aurait une qualité supplémentaire. Et donc, nous, on trouvait ça super intéressant. Bon, on était jeunes, on était un peu naïfs. Et donc, c'est pour ça que c'est moins sympa, peut-être pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clairement pas ça qui se passe. Et dans la mise en place du label France Service, qui nous permet d'avoir des financements de droit commun, de 3 ans, contrairement au financement politique de la ville. Enfin, on a depuis très peu de temps une convention pluriannuelle avec la métropole, mais c'est vraiment anecdotique par rapport à l'histoire de la politique de la ville. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression de la mise en place de labels au service de l'État et des services, pas des habitants. Un peu comme quand on essaye de se connecter au site de la CAF et qu'on doit faire nous-mêmes, comme chez IKEA, toutes les démarches. Je veux me faire des amis auprès de la CAF, mais je dis pareil. C'est-à-dire qu'on doit faire tout, enfin, l'habitant, l'usager, le citoyen doit faire son service public lui-même. C'est-à-dire trouver l'information, créer son compte, imprimer le document, le remplir, le scanner, le transmettre, envoyer le mail, vérifier sa boîte mail. Enfin, alors qu'avant, on allait dans un endroit identifié, certes en silo, imparfait, avec des temps d'attente parfois. On n'était pas toujours content, c'est vrai. Mais on parlait à des êtres humains, déjà, c'était une grande différence. Et on pouvait parler de sa situation propre pour savoir qu'est-ce qu'on devait écrire dans quelle case. Et on avait besoin d'un stylo pour faire tout. Et aujourd'hui, il nous faut 50 trucs plus une connexion Internet. Et beaucoup de temps, en fait. Voilà.
Merci Elsa pour ton intervention. On va se laisser un moment de respiration avec le morceau Quartier Nord, Pôle emploi.
Enfin, qu'est-ce que tu fous ? On t'attend ou pas ? Bon, bise.
C'est quoi ?
Bon, les gars, oh ! Je le crois pas. Il y a une nana, que je connais pas. Elle m'écrit, ça me ferait de porc. Tellement, elle me kiffe à mort. Elle sa lettre, elle me supplie de la rejoindre l'après-midi. Elle me dit qu'il est encore temps qu'on se rencontre vraiment. Je prends l'enveloppe, je la regarde, je la respire, je la déchire pour découvrir son petit, tout petit nom charmant. Elle s'appelle Paul, Pôle emploi. Elle écrit son beau prénom avec un O, c'est trop sympa. Paul, Pôle emploi. Son caractère arial me rend, je vous l'ai dit, gaga. Dans son bureau, elle me reçoit. Pas d'Anka, pas de coca. Elle me dit autoritaire.
Votre numéro d'allocataire.
Oh, moi, c'est pas Cavernine. C'est Fred comme Fred Astaire. Mais tu es trop bonne. File-moi ton phone. Elle me le donne. Je le note. 39. 49. Mais c'est payant. Oh, les gars, oh! C'est quoi ce plan? Elle s'appelle Paul, Pôle emploi. C'est un drôle de numéro, mais pourquoi pas? Paul, Pôle emploi. Elle me dit de cocher là, mais moi je coche pas la première fois. Elle me dit que je manque cruellement d'expérience. Elle a tout compris de ma vie. Qu'est-ce que ça doit être au lit? Elle tape, elle tamponne, elle agrafe, elle me tend en me disant de revenir dans 6 mois. Eh ben, elle est pas pressée. Moi, ça me plaît. Elle s'appelle Paul. Pôle emploi. Elle écrit son beau prénom avec un O, c'est trop sympa. Paul, Pôle emploi. Son caractère arial me rend, je vous l'ai dit, gaga. Elle s'appelle Paul, Pôle emploi. C'est un drôle de numéro, mais pourquoi pas Paul, Pôle emploi.
mais moi je coche pas la première fois.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Méga avec nos invités qui ne nous ont pas quittés, Gerson, Daniel, Yvon et Elsa. Donc nous venons d'écouter un morceau Quartier Nord, Pôle emploi. Donc revenons au métier de médiateur. Parce que qui sait, peut-être, malgré tout ce qu'on a dit, il y a des jeunes qui vont vouloir devenir médiateurs. Mais alors, que fait-on pour devenir médiateur? Quel niveau de style faut-il? Quel est le profil type? Et est-ce qu'il faut y avoir des compétences particulières? Je laisse prendre la parole qui veut. Hein.
Ah, moi, je veux bien répondre à la question. Pour postuler comme médiateur, il y a trois critères. Habiter en QPV, être inscrit à Pôle emploi. Et jusqu'à il y a peu, il fallait avoir plus de 30 ans. Maintenant, je crois que c'est 26 ans, il me semble.
Adulte relais, oui.
Depuis cet été, oui. Pour adulte relais, oui.
Oui.
Voilà, donc c'est les trois critères pour être adulte relais. Il n'y a pas de formation demandée.
Donc en fait, les seuls contrats possibles pour devenir médiateur, c'est adulte relais. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, à l'heure actuelle.
En médiation sociale urbaine.
Ah, monsieur, d'accord.
Après, on a d'autres types de contrats selon les missions. Pour la mission école, par exemple, on est plus sur des apprentissages.
Alors, du coup, c'est peut-être spécifique selon les structures, parce que pour nous, la médiation dans les quartiers, la médiation sociale urbaine, on n'a pas que des médiateurs qui sont en contrat adulte relais. On a aussi des médiateurs à la fois des droits communs, des CDI, certes, qui restent à la marge. On a des personnes en contrat aidé, parcours emploi compétences, CDDI, et ça, on a la chance de pouvoir proposer des CDDI à certains de nos médiateurs parce qu'on est une structure d'insertion par l'activité économique. Nous, vraiment, sur le service que j'ai en charge aujourd'hui, j'ai vraiment une pluralité des personnes, en fait, sur les postes de médiateurs. Il n'y a pas de diplôme particulier qui est exigé aujourd'hui pour être médiateur. On les forme au fur et à mesure, bien entendu. Mais on a des profils vraiment divers et variés. Et ça, c'est super intéressant. Et du coup, pas que des personnes qui habitent en QPV, du coup.
Une question du terrain. Que vous disent les personnes qui travaillent comme médiateurs sur les difficultés, la complexité du travail qu'ils ont à effectuer sur le terrain? Alors, qui se lance?
Alors, les remontées sont très variées. Nous avons fait le choix de ne pas faire travailler de séparer les lieux d'habitation des lieux de travail. Par exemple, ceux qui résident dans le 14e travailleront plutôt dans le 16e et inversement. Après, en fonction de leur vécu, de ce qu'ils vivent au quotidien, parce que des fois, ils vivent dans un QPV et ils travaillent dans un QPV, donc des fois, il y a cette bascule qui n'est pas évidente à faire pour, en rentrant et voyant qu'il y a autant de difficultés ou de problématiques dans son propre quartier d'habitation. Et certains sont plus habitués aux grosses tensions, on va dire, aux quartiers qui sont très, très en tension, où il y a, par exemple, des réseaux qui sont très développés, où il y a beaucoup de tensions pour certains. Je pense par exemple à un quartier comme la Bricarde qui est plus en tension que le quartier SNCF par exemple, qui est juste à côté. Donc en fonction de ces expériences, les remontées sont vraiment différentes. Il y a des entrées dans le quartier qui sont plus faciles, qui sont plus aisées, et de manière globale on peut dire qu'ils ont quand même les codes sociaux, on va dire, pour être en lien et pour rentrer dans ces quartiers. ils savent comment on rentre dans un quartier, comment on peut y travailler, comment on est en lien avec les habitants ou les structures, avec les structures associatives.
Gerson, tu voulais parler ?
Oui. Donc je voulais compléter. Nous, c'est une certaine frustration en fait hein, de médiateurs parce que quand ils arrivent et quand ils démarrent, ils pensent qu'ils vont pouvoir en fait changer les choses en fait. Et ils se rendent compte que la médiation, ça prend du temps. Tout à l'heure, on lisait la définition, c'est un processus. Donc on claque pas des doigts et on arrive à changer la situation d'une personne du jour au lendemain, etc. Il y a la question de la santé mentale aussi qui est prégnante puisque la médiation c'est un acte qui est ouvert à tous sans distinction. On est vraiment en lien avec tous les publics et on est en lien avec des publics en grande difficulté sur lesquels on a des problématiques psychiques et les médiateurs ne sont pas forcément formés sur ces questions-là. Donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. La barrière de la langue aussi. On a des médiateurs qui sont face à tout public, toute communauté, donc ils ne sont pas multi... multilingue, mais du coup il y a ça aussi à travailler. Donc on trouve toujours des solutions hein, pour pouvoir se faire comprendre, faire passer l'information. C'est pas évident aussi de travailler sur des territoires sur lesquels on est à la fois confronté à des habitants qui sont locataires face à des habitants sans droit ni titre. Des personnes qui peuvent être en situation de squat, etc. Donc là aussi, c'est pas évident d'être face à des publics comme ça, se faire comprendre, identifier.
Donc vous êtes un petit peu démunis face à certaines situations, donc, j'imagine. Je perds un petit peu le fil.
Si j'ai bien compris, la plupart des médiateurs ont des emplois précaires. Et une fois qu'ils ont travaillé chez vous, est-ce que cela leur permet de rebondir ? Est-ce que vous les aidez à pouvoir ensuite trouver un boulot qui est plus classique, disons ?
Oui, il y a de l'emploi précaire dans les associations, mais je pense qu'il y a une véritable volonté, et je le disais tout à l'heure, de changer la donne, avec les questions de professionnalisation et de reconnaissance. Il faut savoir quand même que sur le plan national, au niveau de la médiation sociale, beaucoup d'opérateurs en France... travaillent sur des niveaux d'intervention qui sont similaires avec quasiment que des contrats en droit commun. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste peut-être spécifique par rapport à certains territoires, mais sur d'autres territoires, je pense en Rhône-Alpes par exemple, un collègue qui est opérateur d'une grosse structure de médiation sociale n'intervient qu'avec quasiment des salariés en droit commun. Donc il y a peut-être des territoires qui sont un petit peu plus avancés que d'autres, mais enfin, en tout cas, moi... Ma position en tout cas à la direction de Médian Stress, c'est bien prudemment certes, mais d'inverser la courbe, hein, c'est-à-dire de ne pas être dans une logique de contrat aidé. Hein. Moi je suis dans une logique de CDIsation tous les ans de plusieurs médiateurs, de se servir aussi du levier du poste adulte relais qui est plus intéressant que celui du PEC, mais même avec un poste adulte relais, d'être dans une logique de CDIsation. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, je crois que l'enjeu, il est dans les questions de formation, de montée en compétences et également de stabilité dans l'emploi. Donc, à Médian Stress, et pour parler de ce que je connais bien, il y a toujours eu en tout cas une logique de faire monter donc, les médiateurs. Et aujourd'hui, moi, j'ai un collège de 6-7 cadres à Médian Stress qui ont démarré il y a 10 ans en arrière, médiateurs sur Aix, sur Marseille, sur des sites, et qui sont aujourd'hui responsables de projet, managers opérationnels ou intégrés dans les fonctions support. Alors, bon, je pense qu'on aspire tous, en tout cas, à pérenniser les emplois. Je voudrais juste rajouter aussi quelque chose, et ça correspond peut-être aussi au niveau d'intervention d'Elsa avec Léo Lagrange, c'est que, alors, à Médiance 13, on ne fait pas de médiation sociale urbaine. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas devant les établissements scolaires, on n'intervient pas dans le quartier, on intervient sur des sites, principalement. 9 sites en direct et je crois 22, on est présent sur 22 lieux de proximité dans le département, mais on n'est pas dans cette logique en tout cas de rentrer dans le cadre d'intervention dans le quartier. Ça n'a jamais été trop l'orientation à Médiance 13 et ça ne l'est pas en tout cas depuis que je dirige l'association.
Donc, merci Daniel. Alors, vous parlez de professionnalisation du métier de médiateur. Et donc, on a un référentiel qui existe pour la médiation maintenant. C'est le référentiel AFNOR XPX 6600. Encore des références un peu barbares et difficiles à retenir. Alors, est-ce que vos médiateurs, ils sont engagés dans cette démarche de certification ou pas encore, en cours? Est-ce que vous envisagez de le faire? Je ne sais pas. Dites-moi un petit peu.
De notre côté, on vient d'avoir un audit de la part de France Médiation, justement, pour répondre à l'AFNOR, à cette norme, et voir comment on peut être adhérent de la norme, en sachant qu'il y a quand même une question qui se profile sur les prochains appels à projets, c'est qu'il est question de pouvoir demander des structures normées, qui est cette norme AFNOR, justement.
Donc tout le monde va, entre guillemets, devoir prendre le train en marche et certifier ses médiateurs.
C'est une manière de mettre tout le monde dans le même bateau.
Alors au-delà effectivement de ces appels à projets, ces marchés, ces appels d'offres sur lesquels, oui, comme le disait Yvon, les financeurs demanderont certainement à ce que ce soit les structures normées qui y répondent. Au-delà de ça, c'est aussi pour nous vraiment un engagement et une idée de monter en qualité en fait le service qu'on gère au niveau de la médiation. C'est permettre de structurer les choses au sein du service, définir des process très spécifiques. C'est aussi un gage des qualités pour les personnes en fait, hein, qui vont aussi postuler. Et qui vont plus se tourner peut-être vers des structures qui sont normées, parce qu'ils savent qu'ils vont s'engager au sein d'une équipe et d'un service qui a été dans cette démarche-là. C'est un petit peu nous, hein, quand on est consommateur, on va peut-être plus se tourner, être plus rassuré par des produits labellisés, normés, certifiés. Ben là, c'est dans le domaine de la médiation. Donc la Régie Service 13, pour nous, c'est en cours.
Voilà. Je voudrais juste rajouter, je trouve que, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur le côté label qualité du service. Après, je trouve qu'il y a un côté enfermant à devoir rester dans une norme et ne pas pouvoir produire d'autres éléments, d'autres manières de fonctionner. Que ce soit de manière contextuelle sur les quartiers ou selon les missions avec les personnes avec qui nous travaillons, de devoir ce côté enfermant, parce qu'il va impacter plusieurs niveaux, notamment le côté de la formation, où il risque d'avoir une formation qui sera dispensée unique. Alors que pour l'instant, nous, dans les contrats adultes relais, tout le monde fait une formation. Nous ne faisons pas le choix de tous les former au MSADS, mais d'essayer de faire un peu du cas par cas. Pour certains, ça peut être d'autres formations, ça peut être des questions de moniteurs éducateurs ou d'éducateurs spécialisés ou d'autres formations dans d'autres domaines. Et je trouve que ça peut ouvrir aussi pour le après. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après si on décide de ne pas rester dans la médiation? Ce n'est pas non plus une obligation de rester dans ce domaine. Ça reste pour moi quand même, pour l'instant, à l'heure actuelle, un tremplin pour l'avenir, pour se dire, je viens sur un métier qui est en mode de construction, je trouve, en ce moment, qui se professionnalise, et ça me permet de me former, et après, soit de me former dans la médiation et de rester, de m'ancrer dans la médiation, soit de pouvoir aller voir d'autres domaines avec d'autres compétences.
Justement, donc tu parlais de formation, vers de formation de moniteur éducateur et compagnie. Quelle est la frontière entre un éduc de rue à la DAP, et un médiateur?
Pour moi, la frontière est dans l'accompagnement individuel, puisque une partie du travail d'éducateur de rue, c'est justement de faire des accompagnements individuels, alors que les médiateurs sont plus dans l'information et l'orientation. On va travailler avec les éducs quand c'est des orientations du public cible de la prève. C'est-à-dire on est sur du 11-21 ans à peu près. Et après, sinon, on essaie de trouver une autre orientation. Après, sur des secteurs où nous n'avons pas de relais, nous allons pouvoir faire développer l'accompagnement d'une certaine manière, mais ce n'est pas le sens premier de la médiation.
Merci pour ces réponses. On va encore faire une respiration avec justement le morceau « Respire » de Mickey 3D.
Gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Maméga. Nous sommes joignables au 07 49 53 26 38. Et on ne peut pas terminer cette émission sans parler de l'impact du Covid-19 et de la venue de notre cher président Emmanuel Macron en septembre. Donc, au sujet du Covid, quelles ont été les remontées de vos équipes pendant cette période et l'absence de vie de quartier s'est-elle fait ressentir? Je vois Gersand qui ouvre de grands yeux.
Oui, parce qu'en fait, au premier confinement, tout l'enjeu de la médiation sociale, ça a été de maintenir le lien malgré l'éloignement physique. On a été contraint, en fait, de s'isoler. Comment dire ? On a été confinés. L'idée, c'était comment, avec le confinement, on maintient le lien avec les habitants. Donc, on s'est réorganisé, chacun à notre niveau, et on a mis en place en fait ce qu'on appelle des hotlines téléphoniques, où on a communiqué aux habitants des numéros de téléphone où ils pouvaient nous joindre. On a maintenu le lien avec les personnes en situation de fragilité et d'isolement, avec qui on est en lien des manières quotidiennes, en les appelant régulièrement, et en étant ce premier niveau d'écoute et d'information et d'orientation.
Très bien. Daniel, peut-être ?
Alors, en ce qui concerne Médiance 13, avec un niveau d'intervention un petit peu différent, puisque c'est surtout la gestion, entre autres la gestion donc, des sites de Médiance 13. Donc, il y a eu les deux phases distinctes au niveau du Covid. La première pour laquelle on a tous été pris un petit peu de court. Donc là aussi, on s'est réorganisé avec... du confinement, du télétravail, mais tout en avec cette réorganisation permettant en tout cas de faire un travail au niveau d'une permanence téléphonique par site, en maintenant certains accompagnements mais avec des niveaux d'intervention différents, hein, puisqu'on fait aussi des visites à domicile sur certains dispositifs. Donc tout ça a été arrêté, mais on a pu d'une certaine manière continuer sous une forme un petit peu différente. Bon, ça, c'était en lien avec la première phase. Sur la deuxième phase du Covid, là, on avait des instructions assez précises au niveau de la préfecture pour laisser les sites ouverts, mais avec des modalités, là aussi, d'intervention différentes. Hein. La première phase, on était fermé au niveau des sites de Médiance 13, et sur la deuxième phase, les sites ouverts, mais uniquement sur rendez-vous. Vous le savez, tout un tas de mesures de protection, gants, gel, plexiglas, etc., etc. Voilà, donc on a modulé nos différentes interventions en fonction de ce qui était possible, et avec la grande différence de la position de la préfecture qui a été de nous dire sur la deuxième phase du confinement de rester ouvert. Et donc voilà, à partir de là, on a fait comme tout le monde, on s'est un petit peu adapté à des conditions particulières et on continue de le faire, hein, puisque le Covid est toujours là, donc il y a toujours un certain nombre de mesures préventives au sein des sites que nous gérons.
Oui, de notre côté, comme disait Gersand, on a développé une plateforme téléphonique pour rester en lien avec les habitants. Et d'autre part, on était aussi en accompagnement du Secours Populaire sur la distribution, la mise en paquet et la distribution de colis alimentaires. Il y a eu énormément de demandes pendant cette période. Il a fallu vraiment s'organiser pour arriver à acheminer tous les colis, que ce soit dans les lieux habituels ou aussi dans les quartiers où il y a eu des distributions, notamment pendant le premier confinement.
Et maintenant peut-être... Oui, excuse-moi Elsa.
Oui, juste pour rajouter un point. On est malheureux depuis le Covid. On a fait comme nos collègues de Médiance, hein, on a mis en place une plateforme téléphonique pendant le premier confinement. Et on est depuis ouvert sur rendez-vous, depuis la fin du premier confinement, ouvert sur rendez-vous exclusivement. Ce qui était la première fois, d'habitude on accueille le public en flux, avec tous les inconvénients d'attente que ça représente. Et donc on sait bien que ce fonctionnement-là n'est pas adapté à notre public, aux habitants qui ont besoin de nous de manière beaucoup plus rapprochée. Et donc on est triste et malheureux, nos locaux sont trop petits pour pouvoir permettre une attente avec la distanciation sociale satisfaisante. Donc en plus, c'est sur rendez-vous et puis on ne peut pas faire attendre les gens dedans. Donc les conditions d'accueil sont déplorables et on est très malheureux, même si les gens qui viennent nous voir sont extrêmement compréhensifs et nous font aucun reproche. On demande qu'un truc, c'est pouvoir recommencer à travailler autant et aussi dans les mêmes conditions qu'avant, quoi. En tout cas, mieux adapté. Et aussi, une petite précision avec le Covid, c'est que les services publics étaient fermés. Et ça change pas mal les conditions de travail à ce moment-là. Donc, ils sont presque tous réouverts, mais plus du tout sur les mêmes modalités qu'avant. Voilà, c'est aussi un grand changement pour nous et pour le public.
Donc, je le disais au moment de la reprise, donc le 2 septembre, le président Emmanuel Macron est venu et nous a présenté le plan pour Marseille. Et dans ce plan, il y avait certains points évoqués, notamment l'attribution de 30 nouveaux médiateurs et éducateurs. Qu'en est-il ? Pensez-vous que c'est suffisant ? Et à votre avis, comment vont-ils être dispatchés ?
Alors, la question de comment ils sont dispatchés, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que dans notre groupe associatif, il y a eu des embauches de ce qu'ils appellent les bataillons de la prévention. Un mot un peu rude, je trouve, pour des travailleurs sociaux. L'idée étant de faire des équipes pluridisciplinaires d'éducateurs et de médiateurs pour intervenir sur certains territoires, notamment certains nouveaux territoires qui n'étaient pas couverts. Après, j'en sais pas beaucoup plus parce que c'est pas dans notre service que ces personnes sont embauchées, mais plutôt dans les services de prévention où ils vont être attachés. Donc il faudrait plutôt leur poser la question de savoir comment ils vont s'organiser pour et sur quels critères justement ils sont attendus pour mettre en place leur intervention.
Oui, parce que Bon, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Je n'oublie pas Sidi, je le répète parce que je l'ai oublié une fois et je ne l'oublierai plus jamais, de Radio Galère et Farid, que l'on ne présente plus. Et nous nous retrouvons pour les communiquer après une brève pause musicale. Et donc là, Soprano près des étoiles. Nous sommes toujours en direct des échos du Grand Saint-Barthélemy au sein du comité Méméga et nous sommes ensemble pour cette dernière partie qui correspond au communiqué de presse. Donc, Madame Valérie Méjean, directrice de la Maison départementale de la solidarité et du territoire, qui est basée au Flamand, nous informe que tous les sites du conseil départemental présents sur les Flamands, que ce soit la MDS, la PI et le pôle santé, ont modifié leurs horaires d'ouverture et de réception du public. Donc, et cela depuis le 20 octobre et jusqu'au 5 novembre. Ainsi, la MDST est ouverte de 8h30 à midi et de 13h à 15h30. Ces mesures ont été mises en place par notre direction suite aux problèmes d'insécurité grandissant dans la cité aux abords de la MDS sous la pression des réseaux. Sinon, il y a la reprise de la vaccination à l'espace santé des Égalades tous les jeudis de 13h30 à 16h depuis le 28 octobre et cela jusqu'au 23 décembre à l'exception du 11 novembre parce que c'est un jour férié. Cette vaccination est gratuite et se fait sans rendez-vous. Donc l'espace santé se trouve à la Cité des Égalades, au bâtiment 30, 28 boulevard de la Padouane, dans le 15e arrondissement, et est accessible en bus avec les bus numéro 28, 30 et 31 en descendant à l'arrêt La Sylve, Le Casselas ou HLM Les Égalades. Sinon, les permanences de vaccination sans rendez-vous ont repris également à la maison de santé Raymond de Martin. Donc, elles ont lieu les mercredis de 8h à 10h et les mardis et jeudis de 19h30 à minuit. Et cela se fait également sans rendez-vous et c'est gratuit. Donc, la maison régionale de santé Malpassée se trouve au 13 rue Raymond de Martin dans le 13e arrondissement et est accessible par le bus numéro 38. En descendant à l'arrêt des Cèdres. Sinon, une petite annonce de Marseille Nord Handball. Donc, quartier sport, ce sont des animations éducatives et sportives gratuites qui se déroulent tous les mercredis et samedis sur la pelouse de la Busserine de 15h30 à 17h30. Le 3 novembre auront lieu la finale des Olympiades des quartiers populaires et la remise des médailles au stade Amada Jambé à partir de 10h30. Cette journée festive ouvrira ses portes de 10h à 16h. De nombreuses associations seront présentes pour vous offrir une belle journée d'activités sportives, boxe, judo, danse, gym, basket, football, VTT, des jeux et des activités artistiques. Voilà. Nous vous attendons nombreux pour cette journée. C'est un message de la déléguée du préfet au stade Amada Jambé qui se trouve à la Busserine. Sinon, alors, le 8 novembre, au ZEF, donc, que nous connaissons plus particulièrement sur le territoire comme Théâtre du Maryland, a lieu une exposition de Gilles Favier à partir de 18h30 et également la projection du film de Mathieu Kassovitch, La Haine, qui a lieu par contre le 9 novembre. Vous retrouvez toutes les informations relatives à la programmation du ZEF sur le site du Théâtre du Maryland. Le 27 novembre 2021, au cinéma L'Alhambra, à 16h30, aura lieu à l'occasion de la réédition de Lettres à une noire de Françoise Héga aux éditions Luxe, une après-midi dont le thème est « Regard sur une minorité devenue invisible, les Antillots guyanais de Marseille ». Donc au programme auront lieu la projection d'un film documentaire « L'avenir est ailleurs », une exposition sur Françoise Héga, « Françoise Héga, femme plurielle, femme puissante ». Il y aura également un stand de livres avec la librairie Transit et une rencontre-débat autour de l'ouvrage « Lettres à une noire » avec la participation de la philosophe Elsa Dorlin. Les tarifs habituels de l'Alhambra sont 6 euros pour le plein tarif, 4 euros pour les moins de 25 ans. Cet après-midi est à l'initiative des associations Comité Maméga, Approche Culture et Territoire, Mamanté, Mémoire en Marche, La Collective et Transit Librairie. Les échos du Grand Saint-Barthélemy ont lieu grâce au soutien des services de la politique de la ville, de l'ANCT, Marseille-Provence Métropole et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Nous quittons avec une dernière respiration musicale, un morceau de Leila Makkala, La vie vieneg.
La vie vieneg, comme c'est sucré de soleil. Même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient qu'à marcher sur le soleil. Même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là je pas fait bon, nos poches malhérées. Nous fait pour nous vivre, sous la terre bénie. Là je pas fait Manele, nous faisons pour nous vivre sous la terre bénie. La vie vient n'est qu'à prêcher sous crêpe soleil, même si la terre ronde, c'est pas votre malheureux. La vie vient n'est qu'à prêcher sous crêpe soleil, même si la terre ronde, c'est pas votre malheureux. Là je pas fait pour nos poches malheureux, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait pour nos poches malheureux, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau.
Non, pas j'parlerai.
Mes amis, là, j'en pas fait mon nez,
non. Non, pas j'parlerai.
Mes grands confrères, t'es pensé, oh.
Non, pas j'parlerai.
Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau.
Non, pas j'parlerai.
La vie vient n'est qu'à pocher sous crêpe soleil. Même si la terre, c'est pas votre malheur. La vie vient n'est qu'à pocher sous crêpe soleil. Même si la terre, c'est pas votre malheur. Là je pas fait pour nos poches malheureuses, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait pour nos poches malheureuses, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là je pas fait pour nos
poches malheureuses.
Mes amis, là je pas fait mon nénon.
Nos poches malheureuses.
Mes grands contrés, les dépensés.
Nos poches malheureuses.
Mes amis, là je pas fait pour nos
poches malheureuses.
Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau. Mes amis, là, j'en pas fait mon néno.
N'empêche pas les
mes grands retraits, les dépensés.
N'empêche pas les